Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Propulsé par mademoiselle.com.
Ah ouais.
Ah, swing.
20 ans. Qui es-tu à 20 ans? Est-ce que t'es une vieille ado? Une jeune adulte? C'est quoi ta place dans le monde? Avoir 20 ans, ça représente quoi pour toi? Sûrement pas la même chose que pour moi, que pour lui ou que pour elle. Bienvenue dans 20 ans d'âge, le podcast qui donne la parole aux fraîchement débarqués dans la vingtaine. Ici, on rassemble des histoires et des expériences toutes riches et différentes des gens de 20 ans. J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine deux fois par mois. Si toi aussi tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast@mademoiselle.com avec comme objet « J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire ».
Alors, je m'appelle Abby, j'ai 22 ans. Je suis un jeune homme de 22 ans qui a participé à la dernière émission, l'édition 9, je
9,
crois,
ouais.
De The Voice 2020.
Je crois.
Et voilà, je suis apparemment le gagnant de cette émission.
Bah, plus qu'apparemment, hein. C'est à 53% quand même.
J'ai encore du mal à me faire à l'idée.
C'est vrai?
Ouais, j'ai encore
T'as du mal à
dire,
réaliser?
C'est ça, j'ai gagné, pour moi c'est difficile à dire.
Ah ouais?
Ouais.
C'est marrant. C'était quand la finale? C'était en juin?
Ouais, je crois que c'était le 13 juin, 13 ou 14, un truc comme ça.
C'est marrant, ça, on dirait que ça n'a pas beaucoup, pas d'importance, tu vois, mais tu retiens pas forcément la date, c'est plus le numéro de la saison.
C'est vrai, ça fait tout bizarre. En fait, c'est tellement dur de se faire à l'idée que, en fait, je suis à la place de ceux que j'ai vus avant, et que, voilà, ça me perturbe, et j'ai du mal à me faire à cette idée.
T'as grandi un peu avec The Voice?
Comment dire, pas vraiment. En fait, c'est surtout que je regardais ça avec admiration. En fait, je regardais toujours, des replays ou des candidats ou des trucs sur YouTube, et j'étais en mode, oh, ils sont trop forts. Et c'est limite un truc qui me décourageait plus qu'autre chose.
Ah ouais?
Je regardais, j'étais en mode, mais je suis trop nul, je sais pas chanter en fait. Et non mais c'est fou parce que c'est marrant que maintenant je me retrouve à la place de ces candidats que je regardais avec admiration. Et j'en reviens toujours pas, alors que ça fait un petit moment quand même.
Bah ouais, c'est ouf.
Ouais.
Du coup, on est là pour parler de l'année de tes 20 ans.
Ouais.
Et donc, quand je t'ai posé la question, tu m'as dit, 20 ans, c'est... Enfin, l'année de mes 20 ans, c'est l'année où je me suis découvert.
Je me suis découvert.
Ouais. Et est-ce que tu pourrais me dire un petit peu ce que ça voulait dire pour toi d'avoir 20 ans? Est-ce que t'attendais d'avoir 20 ans?
Alors, 20 ans... Ouais, peut-être que j'attendais d'avoir 20 ans. C'est un bel âge entre... Tu sais, j'étais en train de réfléchir à la question 20 ans. Et je me disais 25, t'es déjà bien entré, tu vois. T'es un adulte. 15, t'es encore un ado, enfant. Et 20, c'est la transition entre les deux, en fait. Mmh. Et c'est... en fait, je le vois comme ça. C'est genre le moment où tu commences à te faire de l'expérience et où tout ce que tu vis commence à te servir. Et en fait, je crois que c'est une année où j'étais dans cette optique-là et je faisais tout un tas de trucs en même temps. Je crois que c'est une année où j'avais genre quatre trucs en même temps et c'était...
Tu faisais quoi en même temps?
En fait, j'étais à l'école. À côté, je travaillais avec des adultes en situation de handicap, en tant qu'éducateur spécialisé.
Okay.
Ça, c'était surtout le week-end. À côté, le week-end, je faisais aussi des scènes, des prestations, des trucs dans des concerts, dans des restos, des bars et tout. Et à côté, il reste un dernier truc. Je faisais quoi? Je faisais du babysitting. Et en fait, je faisais ces quatre trucs-là en même temps. Et en fait, je crois qu'après réflexion, c'est un truc où en fait, je voulais me lancer un petit peu dans la vie d'adulte. Enfin, dans la vie d'adulte, en me disant, je vais travailler un max et prendre les choses en main en quelque sorte. Et très vite, tu te rends compte que c'est difficile d'avoir un quotidien où tu dois beaucoup bouger parce que t'es fatigué, mais tu peux pas t'arrêter. Et quand tu t'arrêtes, t'es mort. Et quand tu t'arrêtes, t'es mort, mais on te dit de continuer. Et quand tu continues, on te demande de te calmer. Enfin, c'est très difficile à gérer.
C'est marrant, toutes ces choses différentes que tu faisais. Ouais. On dirait que tu cherchais une direction un peu, tu vois, où c'est un peu...
Bah, c'est
en fait, à 20
vrai,
ans...
Ça. Ouais.
J'ai ça dans ma tête. Voilà, je fais des études, je travaille, je fais de la scène. Qu'est-ce que je veux faire après? Et donc, t'as choisi en fait un peu la scène.
Ça c'est vrai. C'est vrai que j'étais dans plein de trucs que j'aimais en fait. C'est ça qui est fou. Je crois que j'ai eu une chance dans tout ça, c'est de faire que des choses que j'aimais. J'aimais mes études dans les langues, j'aimais travailler avec les personnes en situation de handicap, et j'aimais la scène et la musique. Et à vrai dire, je sais même pas si je pourrais dire que j'ai vraiment choisi la scène, parce que, oh là là, j'ai failli dire un truc cliché, genre, c'est la scène
c'est
qui
la
m'a
scène
choisi.
Qui t'a choisi. D'accord.
Non mais on n'est pas loin de ça, tu sais pourquoi? Parce que, en fait, j'ai jamais vraiment cherché à, tu sais, pour participer à The Voice, j'ai pas...
Oui, t'as été repéré, c'est ça?
C'est ça, et je me suis retrouvé dans tout ça, un peu malgré moi, en admiration autour de tout ce qui se passait, et je me disais, waouh, c'est trop bien et tout. Et plus ça avançait, et plus, en fait, ce rêve que j'avais, parce que ça a toujours été un rêve de faire de la scène, et je voulais être prof aussi. En fait, ça, c'était mon premier objectif dans mon parcours. Et j'avais ces deux trucs-là, et je me disais, si je fais l'un des deux, si je travaille dans les langues, si je fais de la scène, je serai heureux, en fait. Et l'année dernière, je crois, c'était l'année dernière, pendant la participation à l'émission, j'ai été prof, en fait. J'ai eu la chance de faire ce boulot, et c'était très particulier, parce que, du coup, ce truc-là que je voulais faire, j'ai pu l'essayer et voir que, voilà, c'est cool comme tout, et il y a des côtés un peu plus relous, tu sais, quand t'as envie de tuer tes élèves.
T'étais
et tout.
T'étais prof d'anglais, c'est
J'étais
ça?
J'étais prof d'anglais remplaçant dans un collège, avec des classes de 6e, 5e.
Oui, donc t'avais à peine 10 ans de plus, 10 ans de plus que les élèves.
Ouais, c'est ça, c'était particulier. C'est vrai que c'est particulier quand t'es assez jeune pour être proche d'eux. Et en fait, tu vois aussi la vision des élèves. Tu sais, ils pensaient que j'étais un vieux et tout. C'était marrant. Mais,
tu les as appelés monsieur.
Ouais, monsieur. C'est tout drôle, tu sais. On t'appelle monsieur Bernadotte. Comme si, tu vois. Et alors que, tu sais, j'ai mes potes à côté qui... Enfin, moi-même, tu vois, à mes propres yeux, je me voyais même pas m'appeler monsieur ou quoi que ce soit.
Ouais, puis il y a 6 mois, t'appelais des gens monsieur en cours, quoi. Donc c'est marrant, quoi.
C'est très particulier. Et du coup, il y a maintenant la scène où je suis plongé là-dedans et je ne me voue qu'à ça un peu. Et je suis lancé dans cette carrière un petit peu, dans ce début de carrière. Et là, on verra ce que ça donne, mais ça fait tout drôle, vraiment.
Ouais, j'imagine. Et du coup, c'est quand t'avais 20 ans que t'as été repéré? Ou t'avais 20,
non,
21
ça s'est, en fait, ça s'est fait...
Ça s'est fait rapidement?
Ouais, j'ai eu 22 ans en février, donc ça s'est fait en... Genre en... Fin d'été, genre...
Ah oui, donc ouais. Ça allait super vite, en fait. Ouais, genre, t'as passé le casting immédiatement, pratiquement.
Ouais, c'est ça. En fait, je suis arrivé... Je suis arrivé à la toute fin du casting. Tu sais, il y a tout plein de casting. Et je suis arrivé au tout dernier, comme ça. Et... ça s'appelle l'audition finale et tout. Et j'étais en mode, waouh, qu'est-ce que je fais là et tout. Tu vois, j'arrive dans la salle et j'étais intimidé. Et je chante et je me dis, c'est foutu pour moi. Et après, on m'appelle, ouais, t'es prêt aux auditions à l'aveugle. Et je me dis, waouh. Et en fait, de fil en aiguille, comme ça, ça s'est passé exactement comme ça.
Est-ce qu'à chaque étape, t'es là, non, mais c'est foutu pour moi? Non, j'ai réussi.
Exactement. Mais c'est le déroulé de chaque étape. C'est genre, 1, qu'est-ce que je fais là? 2, ok, on y va. 3, c'est foutu pour moi. 4, quoi? Et c'est un peu toute l'aventure jusqu'à la finale.
Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait te dépasser? Parce que du coup, tu me disais, quand tu regardais les gagnants de The Voice ou les participants, etc., tu te disais, ils sont trop forts. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis en disant, bah en fait, peut-être que je sais chanter, donc peut-être que je vais participer quand même? Est-ce que c'est un moment où t'as quelqu'un ou quelque chose t'a fait prendre confiance en toi? Est-ce que c'est toi-même, ça vient du fond de toi, d'un événement, d'une personne?
Très bonne question. Je pense que il y a une grosse part qui vient de tout le soutien que j'ai reçu et de voir qu'il y a des gens qui croient en toi plus que toi-même. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, en fait, les gens, ils peuvent croire en toi à ta place, mais ils peuvent pas faire les choses à ta place. Mmh. Et en fait, t'es lancé dans une optique où t'es obligé de te dépasser, de te surpasser. Et en fait, à chaque étape, c'est comme ça. J'ai eu un challenge qui m'a poussé à aller plus loin que ce que je savais faire, que ce que je pouvais faire. Et quand bien même je pensais ne pas être à la hauteur, bah, il se trouvait que le travail que j'avais fourni était à la hauteur et c'est ce qui m'a toujours poussé à continuer en fait. Tu vois, tu veux toujours aller plus loin, tu veux toujours te surpasser, te découvrir et à chaque fois en fait, au fur et à mesure, je me découvrais, je me découvre encore et j'apprends des tas de choses des gens autour de moi, de moi-même. Et en fait, comme on dit, on est construit par ceux et celles qui nous entourent, en fait, tout simplement. Et je suis exactement dans cette phase-là où je suis un peu une éponge et je m'imprègne de tout ça. Et
ils te donnent la force aussi pour te découvrir et tu le fais pas forcément que pour eux, parce qu'en fait, tu kiffes aussi te découvrir toi. Et...
Ouais, c'est vrai que c'est assez... C'est fou même de le dire, tu sais, en fait au fur et à mesure que je te le dis, là je réalise que je vis et je me dis, boah, c'est un truc de fou. Et ouais, je me découvre là-dedans et en fait maintenant qu'on prépare la suite, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, tu vois, vis-à-vis du public et de voir comment ça va être reçu et tout.
Et parce que t'es en train de préparer un album, c'est ça?
Ouais, on est en train de préparer un album, avant ça un EP, avant ça un single. Et c'est tout un tas de trucs où ça va aller très vite et on est en plein dedans et c'est flippant et c'est excitant à la fois, tu vois. Genre, c'est en mode, ouais, j'ai trop hâte, mais j'ai peur, tu
vois. Ouais. Bah ouais, mais c'est les meilleures sensations en vrai dans la vie.
Je sais pas.
Ah si, se jeter dans le vide en te disant, et là, soit je m'éclate, soit je remonte super haut, quoi. C'est super excitant.
C'est ça, c'est vrai qu'en fait, vis-à-vis de la confiance en soi, qui est dur à trouver d'ailleurs quand on a cet âge-là, cette tranche d'âge-là, devrais-je dire, c'est comment je peux dire ça, je suis dans cette, je me dis en fait que les gens ont confiance en moi et en fait j'ai plus le choix en fait, je peux pas ne pas avoir confiance en moi si les gens ont confiance en toi et te poussent à avancer, t'es obligé de te battre ne serait-ce que pour eux et pour ceux qui croient en toi, en fait, tout simplement.
Et tu penses que du coup, le manque de confiance en soi, c'est un truc générationnel qui va avec l'âge, ou il y a autre chose derrière ça, de plus personnel ou...
Je pense que il y a des deux. Je pense que c'est aussi beaucoup une question d'âge, parce qu'en fait, à cet âge-là, tu sais, t'es un peu entre les deux, t'es plus au milieu des ados, des enfants, et t'arrives chez les adultes, et ben c'est à cet âge-là que se fait la différence entre les adultes qui vont continuer à poursuivre leurs rêves et à se fixer sur un objectif et y foncer, et les adultes qui avaient des rêves, qui ont eu des désillusions et qui vont te dire, oh mais tu sais, moi j'ai connu la vie, ça sert à rien de faire ce que tu fais, abandonne, tu vois. Et en fait c'est des choses qui vont te faire avoir des désillusions toi-même. Et là, tu te remets beaucoup en question à cet âge-là et tu te dis, est-ce que ce que je veux faire, c'est vraiment quelque chose que je peux faire? Est-ce que je suis légitime de vouloir ça? Est-ce que j'en ai la capacité, quoi? Et je pense qu'il y a de ça. Et puis, il y a tes expériences aussi. Par exemple, dans mon cas, si je puis me permettre, j'ai grandi dans une famille où j'étais le dernier, tu vois. J'étais le dernier. Être dernier de la famille, c'est un peu la victime, le bouffon, quoi.
Ah ouais, c'est marrant. Il y a deux. Parce que moi, je suis première et...
Ah ouais?
Ouais, il y a deux écoles. T'as aussi le chouchou comme dernier, quoi.
Ouais, bon, là forcément, je sais pas si on peut prendre cet exemple.
Non, mais si, bien sûr, continue, je te charrie.
Non, mais il y a peut-être de ça aussi, mais le fait d'être dernier, tu sais, En plus, dans ma culture, le dernier, je suis né en Haïti et chez les Haïtiens, le dernier, il se doit de d'obéir aux aînés et tout, tu vois. Et donc, j'ai deux grands frères, j'ai une grande sœur, j'ai deux parents. Voilà, j'étais le dernier dans cette maison avec cinq personnes qui me demandaient des choses et me donnaient des ordres limites, tu vois. Et du coup, j'ai grandi avec. C'est tout bête, mais c'est le genre de choses qui font que qui ont fait au fur et à mesure que j'avais pas forcément confiance en moi. Pourquoi ? Parce que quand je voulais me rebeller auprès de mes frères, je prenais des coups, tu vois.
Ouais, ouais.
Bon, maintenant la relation entre nous n'est plus la même, mais tu vois, c'est le genre de choses qui font que t'oses plus faire les choses parce que voilà, t'as l'impression que ça va se retourner contre toi ou tu vois. Mm. Et c'est le genre de choses qui font que t'as pas confiance en toi 5-10 ans plus tard. Mm. C'est fou, mais c'est on est vraiment construit par notre vécu, quoi.
Ouais, c'est clair. Et du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu de The Voice et cette édition qui est quand même super étrange?
Oui.
Donc, quelle année, franchement?
Laisse tomber.
Donc, en gros, donc, The Voice a commencé sa diffusion en février, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Et donc, les premiers primes devaient arriver au moment du confinement, finalement.
C'est ça. En fait, ouais, c'est exactement ça. On est arrivé à la demi-finale, en plein confinement, et un gros doute. Un gros stop de genre 6 semaines et personne n'avait de nouvelles en fait, on savait pas et eux-mêmes la production, on n'était même pas sûr de pouvoir finir.
Ouais.
Et ils se sont battus pour y arriver, ce qui avait pu se faire mais dans des conditions très 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 particulières.
Ouais, est-ce que tu peux rappeler ces conditions qui étaient bizarres?
Alors c'était des enregistrements en décalé, donc on enregistrait la finale, la demi-finale et la finale en fait dans les mêmes conditions que les directs, donc c'est-à-dire en one shot, t'as pas de deuxième chance, tu chantes, c'est fini. Et en fait, pour la première fois, en fait, même je peux dire de l'histoire de The Voice, tu pars du plateau sans savoir ce qui va se passer. Et là où ça a été vraiment bizarre, c'était à la demi-finale où on était chez nous, devant nos écrans, devant les télés, et t'as le résultat, tu vois. Et voilà, tu vois, il n'y a pas les autres candidats. Tu ne peux pas partager justement cette aventure que vous avez partagée jusque-là. Et c'est tout drôle, c'est particulier, quoi. C'est difficile à décrire. Donc, je ne sais pas comment je peux dire ça. La joie ou la déception, hein, parce que ça va dans les deux sens, ne sont pas la même. Et ça a été très particulier à vivre.
J'imagine aussi au niveau du public qui était en fait en visio. Et ça doit être super différent parce que du coup déjà t'as pas un public en réel,
ouais.
Mais en plus tu vois les têtes parce que quand tu chantes sur scène,
ouais.
Tu vois pas les têtes des gens. Là tu les vois en face de toi.
C'est ça.
C'est étrange quand même.
Bah écoute, j'ai la chance de beaucoup fermer les yeux quand je chante. Donc... Donc je voyais pas trop ça, mais c'est vrai que ça a été particulier. Et puis le public, en fait, c'est ce qu'on nous a dit pour, tu sais, pour te plonger dans la chanson, pour te plonger dans le truc. Le public, c'est la caméra. Et ça, c'est un peu ce que font les acteurs, c'est un peu ce que font, tu vois, voilà, ce que tu fais sur un clip, un truc comme ça. Mais il faut regarder la caméra en te disant, il y a Isabelle, il y a Jules, il y a Roger derrière son écran. Ouais. Et tu vois, je dois chanter la chanson comme si il ou elle était là. Et je préfère dire elle ou il, c'est mieux. Était là et c'est ouais. Bizarre.
C'est bizarre, ouais. C'est bizarre.
C'est très chelou.
Ouais. Mais tu l'as quand même bien vécu. Genre, ça a été une expérience... est-ce que tu t'es senti un peu... performeur du futur, quoi, tu vois. Enfin, non, mais je me dis, tu vois, c'est tellement difficile en ce moment pour les gens du spectacle, etc., ouais. Tu vois, qu'en fait, il va falloir inventer peut-être de nouvelles manières de faire le spectacle et tout. On ouais. sait pas, tu vois. Donc, est-ce que c'est un. Enfin, tu penses que c'est une solution?
Ah ouais, c'est vrai que ça va nous suivre, ça, mais. Ouais, je pense que maintenant que tu le dis, c'est quelque chose à envisager, parce qu'on n'est pas prêt de sortir de ça, mais. Ouais, c'est vrai. Performeur du futur. J'aime bien l'idée.
Bah, merci. Je viens de l'inventer, donc c'est une marque déposée.
Tu peux déposer en vrai.
Et du coup aussi, je voulais te parler donc, de cette fin d'aventure
oui.
où t'apprends que t'as gagné, ça
oui.
y est. Comment ça se passe? C'est quoi? Est-ce que ça change tes relations avec les gens, ta vision de toi-même. Je sens que j'ai ouvert une grande porte.
Ah, t'as ouvert une avenue. T'as ouvert un portail. Non, mais c'est vrai que tu te rends compte que... Enfin, tu te poses des questions, en fait. Tu sais, je me demande... Je me suis posé des questions philosophiques sur des trucs du genre, c'est quoi le succès? C'est quoi la fame? Qu'est-ce qui définit que t'as réussi? Qu'est-ce qui définit que t'es quelqu'un? Parce qu'en vrai, j'ai rien fait de particulier, tu sais. Enfin, peut-être pour moi, je sais pas, mais en fait,
Bah, t'as juste été toi et les gens ont kiffé.
C'est ça. C'est mmh. Non, mais j'ai été moi-même, en fait. J'ai pas cherché à jouer un personnage ou quoi. Et le truc, c'est que, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai changé de comment dire, j'ai changé de enfin, je suis plus le même aux yeux de beaucoup de personnes. Et ça me fait tout drôle parce que justement, je suis le même. Et tu vois, de ce fait, t'as plein de gens qui te voient différemment.
Et tu parles de quels gens? Les gens de l'extérieur, ta famille, tes amis?
Les gens de l'extérieur, la famille, les amis, des trucs comme ça, tu sais. Je te donne des exemples tout bêtes. C'est que des gens à qui je parlais normalement, on s'entendait bien, on rigolait ensemble et tout, tu vois. Et ben maintenant, ils sont limite intimidés quand ils me voient, tu vois. Or que je sais que ça paraît un peu... c'est quoi le mot? Bref, je vais dire ça de manière terre à terre, mais je suis le même bouffon, tu vois. Et ils sont en mode, oh, mais qui suis-je, tu vois. Je suis personne. C'est ça qui me fait tout drôle, en fait. Et j'ai l'impression d'être quelqu'un aux yeux de plein de gens. Et c'est bizarre à vivre, tu vois. Pareil pour la famille. Des fois, je dois les calmer un petit peu. Doucement. Non, mais sérieux, c'est genre... Doucement, c'est bon, je calme-toi. Il ne s'est rien passé encore. Et voilà,
Tu dois les calmer à quel niveau?
Je dois les calmer parce que en fait, j'ai limite plus peur pour eux que pour moi, tu vois, qui se bercent d'illusions. Et parce qu'il faut être réaliste, tu vois. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et demain, je peux commencer un album et l'album, il floppe, mais d'une force. Genre, personne ne le calcule, tu vois. Mais le truc, c'est que... En fait, il faut se préparer à cette éventualité-là. Et le truc, c'est que ils sont, autant ma famille que plein d'amis, ils sont en mode « Ouais, ça va marcher! Ouais, ça va être incroyable !» Tu vois, et calme-toi, on sait jamais. Et c'est comme ça pour plein de gens. Et puis, il faut mentionner ça aussi, les gens dont tu n'avais plus de nouvelles depuis 2, 3, 4 ans, qui réapparaissent.
Ah ouais.
De nulle part. Et c'est genre « Coucou, amis !» Tu sais pas comment te tenir face à ça, parce que c'est des gens que t'apprécies, c'est des gens contre qui t'as rien, tu vois.
Mais tu sais mais quelles intentions gens, ils ont derrière la tête.
Il y a de ça, il y a de ça, c'est vrai. Et puis c'est des gens qui étaient pas là quand t'étais en galère, tu vois. Et de même, t'as des gens qui étaient là quand t'étais en galère et qui sont là pour te soutenir et pour te rappeler, voilà, pour te permettre de garder les pieds sur terre, quoi. Et j'essaie enfin, c'est une phase où je réfléchis. Enfin, je suis dans un moment de ma vie comme ça où je réfléchis énormément. Je crois que j'ai jamais autant réfléchi de ma vie constamment aux choses. Et je sais pas si ça me fait du bien ou si ça me torture limite, tu sais. Parce que c'est tu veux être sûr d'être à la bonne place, tu veux être sûr de bien faire les choses. Et voilà, tu sais, par exemple, je te donne un exemple tout bête. Quand quelqu'un se vexe parce que je réponds pas, je me demande si je dois me sentir mal parce que j'ai pas pu lui répondre, ou est-ce que je dois me dire que je dois rien à cette personne dans la mesure où, enfin, je dois rien. Ça a l'air un peu égocentrique, ou tu sais, quand tu regardes les gens de haut. Et je suis dans un travail en fait qui fait que j'ai pas beaucoup de temps et que c'est pas de ma volonté de ne pas répondre, tu vois. Et je suis tiraillé toujours entre ces choix-là.
Oui, puis t'as l'air d'être un garçon qui a envie de un peu faire plaisir à tout le monde et tout.
C'est ça, c'est ça. C'est je suis quelqu'un de très gentil, trop gentil, je le sais, tu vois. Et je suis très empathique, tu vois. J'essaye toujours de faire du bien aux gens, j'aime bien faire du bien aux gens. Et tu vois, des petites choses comme ça, moi je peux être torturé pour, je te jure que je peux être torturé pour ça. Il y a des trucs tout bêtes dans ma vie, genre, qui sont arrivés, et j'y pense toujours alors que c'est rien. Genre, je pense toujours à la meuf que j'ai vue en train de pleurer au coin de ma rue, à qui j'ai pas fait un câlin, ça fait genre 7 ans. Je te jure que c'est vrai. Et c'est des... Non, mais c'est des choses pour te dire, tu vois, c'est des petites choses où... en fait, je suis très... Comment je peux dire ça? Je suis très impacté parce que les gens ressentent autour de moi.
Mais t'es un peu une éponge.
Et c'est
comme
ça.
Comme tu disais tout à l'heure, en fait, tu puises ta force chez les gens, mais
c'est
tu sais aussi être affecté par leur moment de down.
Exactement.
Et tout.
Mais tu sais, les gens peuvent s'en servir contre toi. Mm. Et c'est là que je dois apprendre à faire ça bien et à me comment dire...
Te blinder, un peu.
Voilà, me blinder, faire la différence entre ce que je dois prendre, ce que je dois pas prendre, savoir m'éloigner de ce qui n'est pas bon. Et voilà, c'est...
Et est-ce que t'as des gens, justement, qui sont un peu plus habitués à ça, qui t'entourent et qui t'aident? J'imagine qu'il y a Pascal Obispo, du coup, qui était ton coach et qui reste ton manager.
Ouais.
Donc, quel conseil il te donne, notamment?
Ben, à vrai dire, il me coach... En fait, il fait toujours son job de coach et il m'apprend un petit peu tout ça sur le tas. Alors il y a ça, faut que tu fasses attention à ça, et ça fait partie de nombreuses leçons qu'il m'a données où je devais faire très attention et comme tu disais, un peu me blinder et me protéger de tout ça. Mais c'est vrai qu'en fait j'ai jamais été dans cette situation là avant, de toute ma vie, et en fait je suis dans la transition entre le habit de la vie de tous les jours et le habit que tu vois sur un écran, tu vois. Et en fait, il faut que ce soit le même habit, sans être le même habit, parce que si je suis touché, je te donne un exemple, par les trucs négatifs, de la même manière que le habit de tous les jours est touché, eh ben, je suis foutu dès que je vais me prendre, tu vois, des commentaires négatifs ou des trucs comme ça. Donc, j'apprends beaucoup, c'est inquiétant, c'est flippant, mais c'est grisant parce que je grandis, en fait, tu vois. Ouais. Et voilà, je pense que ça rentre bien dans le concept de 20 ans d'âge.
Ouais, c'est clair, t'apprends mieux.
Tu vois.
Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait choisir Pascal Obispo? Parce que du coup, si je me trompe pas, il y a 4 jurys qui sont retournés.
Ouais. C'est de la chance.
T'étais encore surpris.
Oui.
Du coup, qu'est-ce qui t'a fait choisir Pascal Obispo et c'est qui tes inspirations en fait dans la vie quotidienne, que ce soit dans la chanson ou ailleurs?
Alors ça va être drôle parce que, à vrai dire, Pascal Obispo, ce serait pas forcément, c'est pas forcément le genre d'artiste que j'écoute. Tu vois, déjà, j'écoute surtout des artistes anglo-saxon, comme on dirait. Donc, si je te donne des exemples, Sam Smith, John Legend, Ed Sheeran, Alicia Keys, tu vois. Et en fait, j'ai pris justement Pascal Obispo pour aller dans le challenge. Et je me suis dit, en faisant ça, que c'est là justement que j'allais apprendre le plus. Parce que je suis en quête de savoir et d'apprentissage. Et c'est ce que j'ai fait. Enfin... Pourquoi je me répète? Je l'ai choisi pour ça, parce que je savais en fait qu'il allait me faire galérer, tu vois. Et pour le coup, j'ai été servi, tu vois.
Non, c'est vrai. Il t'a vraiment fait galérer?
Ouais. Pour le coup, il m'a aussi beaucoup boosté, tu vois. Il m'a poussé à prendre confiance en moi et il m'a un peu secoué dans tous les sens du terme, en mode vas-y, fonce. Et t'as rien à perdre, en fait, tu vois. Et c'est ce qui m'a mené jusque-là, d'une certaine manière, entre autres. Et voilà, j'ose croire que j'ai fait le bon choix, du coup.
Ouais, bah, plutôt. Enfin, je ne veux pas m'avancer, mais ça a l'air plutôt bien parti pour toi, quoi.
Ouais,
je sais pas. Ouais, du coup, tu m'as parlé un petit peu de tes inspirations.
Ah oui, les inspirations, c'est vrai. Tu disais, oui, les artistes.
Les artistes.
Aussi, la famille. Ouais. Je ne veux pas trop parler, je te laisse finir ta question, pardon, je parle beaucoup.
Ah non, mais vas-y, c'est le but. Hein.
Non, mais dans les inspirations, tu as aussi la famille, forcément, ça joue beaucoup. Et je me suis beaucoup inspiré de mes parents, de mes frères et sœurs. Et c'est comme je disais, je m'imprègne beaucoup de ce qu'il y a autour de moi. Et mes parents, c'est un peu des modèles, tu vois, dans leur manière de faire. Et ça me sert aujourd'hui, tu vois.
T'as une bonne relation avec tes parents?
Ouais. Tu sais, par exemple, je te donne un exemple tout bête. C'est genre, ils m'ont appris justement à ne pas me soucier de ce que pensent les gens ou de ce que disent les gens. Et maintenant, c'est marrant parce qu'ils me disent « Bon, il faudrait te soucier quand même de ce que pensent les gens. » Donc, on peut dire que j'ai appris d'eux. Et puis, mes frères, tu sais, tu regardes toujours les grands frères en modèle et
tout. Vous avez combien d'écart avec tes frères?
Alors, mon grand frère, mes deux grands frères, attends, parce que moi, je suis nul en calcul. Je vais juste te donner les dates de naissance, tu vas voir le délire. mes deux grands frères sont nés en 92 et 93. Ma grande sœur est née en 95 et moi en 98.
Ok.
Voilà, tu vois l'idée?
Ouais, ouais, je vois l'idée. Oui, parce vous vous enchaînez un petit peu.
Ouais, voilà. Et en fait, voilà, mes grands frères, je les ai toujours regardés avec admiration, quoi, en voulant faire comme eux. Et c'est un peu aussi ce qui m'a poussé à arriver jusque-là, tu sais, parce que t'as envie de faire les choses aussi bien qu'eux, tu vois. Et ils ont des enfants, ils ont leur appart, ils ont leur copie, ils ont, tu sais, ils ont, enfin, tu vois, et t'es en mode, je veux faire comme eux, tu vois.
Ouais, c'est des choses auxquelles t'aspires.
Ouais, c'est des choses auxquelles j'aspire, tu vois. Et puis, il y a ma sœur, par exemple, qui est aussi un exemple de ce dont je me suis imprégné. C'est un cas particulier dans la mesure où elle est en situation de handicap, tu vois. Et en fait, j'ai appris d'elle dans ma relation avec elle, tu vois. C'est chelou dit comme ça, mais par exemple, le fait que je sois empathique vient genre à 98% d'elle, tu vois. Le fait que je sois tourné vers les gens, tourné vers la famille, ça vient beaucoup d'elle et tout. Le fait que je sois très câlin, le fait que je sois, c'est quoi, un peu neuneux, comme je disais. Ouais, ça vient d'elle, tu vois. Ouais, un peu neuneux, je sais, en mode... voilà. On s'est compris, je crois.
Ok. Ouais, donc ta famille, c'est vraiment un cocon auquel tu tiens énormément. Ouais. Et ouais. Et du coup, on n'a pas trop parlé, justement, du futur. Mais tu me dis que t'aspires à un futur assez, comment dire, conventionnel, tu vois. Genre, c'est un truc que... pour lequel tu travailles, t'envisages ça comment, en fait?
Très bonne question. Alors, en fait, le truc, c'est que le futur, je crois que là, à l'heure actuelle, je en fait, il est un petit peu hors de mon contrôle, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, je sais absolument pas ce qui va se passer dans un an, deux ans, cinq ans. Et je pense que je vais apprendre sur le tas et on verra ce que ça donne, tu vois. Mais ne serait-ce que, par exemple, dans le futur proche, tu vois, ce qui va se passer, un single, un EP, un album, tu sais pas ce que ça va donner. Si dans 5 ans, je suis encore dans le monde de la musique et qu'on me connaît, ne serait-ce qu'un petit peu, ou si dans 5 ans, je suis retombé dans l'anonymat, tu vois, ce qui serait peut-être pas plus mal, d'une certaine manière, d'une certaine part, si on prend toutes les parts des choses. Mais... ouais, je sais pas, le futur, il est comme toujours, on sait jamais de quoi est fait demain et c'est incertain. Et on peut rien faire d'autre qu'attendre de voir, en fait.
Oh là là, tu devrais écrire des chansons.
Merci. Ça tombe bien, j'essaie.
Et du coup, pour finir cette interview.
Oh, c'est déjà fini.
Ouais, c'est déjà fini.
C'est nul.
Ouais, je sais.
Je voulais que ça dure une heure. Hein.
J'aurais aimé aussi. Mais du coup, c'est une question que je pose à tous les invités de 20 ans d'âge. C'est quoi la leçon que tu as apprise de l'année de tes 20 ans et là, plus généralement, de tout ce qui s'est passé ces dernières années et que tu aimerais donner à l'ado que tu étais?
Oh, ça, c'est joli, ça. Ça, j'aime beaucoup. Ouais, ça, c'est joli. Ouais, la leçon que j'aurais donnée à l'ado que j'étais, c'est de ne pas prendre... c'est de ne pas prendre les désillusions comme... et même... ouais, c'est ça. Ne pas prendre les désillusions, les déceptions comme des échecs, tu vois. Je crois que c'est Nelson Mandela, je crois, qui disait ça. Peut-être que je dis des bêtises hein, et que c'est une citation qui vient de je ne sais qui. Mais il disait, il me semble, qu'il n'y a pas de défaite, que des leçons, tu vois. Et c'est ce qui fait la différence entre quand t'es un adulte et encore un enfant, c'est que quand tu prends une désillusion... une défaite, ou même, tu sais, une déception ou un truc qui va te miner le moral, c'est que ça va te mettre à plat. Mais genre, ça peut te mettre à plat pendant un jour, pendant deux mois, pendant cinq ans. Et des fois, c'est des trucs comme ça qui peuvent te faire rater des occasions, des trucs qui vont te faire avancer dans la vie. Et en fait, c'est à ça que j'ose croire parfois que je deviens un adulte, c'est que j'aime apprendre. Et ça va être tout drôle à dire, mais maintenant j'aime me tromper, j'aime faire des erreurs. Et j'aime quand ça marche pas. Pourquoi ? Parce que j'apprends de ça, tu vois. Mmh. Et tous les trucs qui se passent mal maintenant, genre avant j'aurais été en mode... mais maintenant je suis reconnaissant de ça, tu vois, parce que c'est des leçons et derrière ça me forge et je suis préparé pour les prochaines fois où ça arrive, pour les prochaines fois où des situations similaires me tombent dessus, et derrière tu deviens quelqu'un de plus fort. Donc j'aurais dit au Abby ado, apprends de tes échecs et deviens plus fort, plus grand. C'est beau, hein.
C'est trop beau. Trop bien. Merci beaucoup, Abby, en tout cas, pour cette interview.
Merci.
C'était vraiment
toi,
trop, trop cool.
Ça a été un plaisir.
Oui, moi aussi.
Merci à toi, auditrice, auditeur, d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire. Et si tu as 20 ans et que tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast@mademoiselle.com avec comme objet « J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire ». À bientôt dans 20 ans d'âge.